먹었어?
Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs.
Allez,
안녕하세요. Êtes-vous en paix en ce début de nouvelle année? C'est Bok Mani Padashiguyo. Meilleurs vœux et on attaque avec la deuxième émission de l'année, le 19e épisode du Corée Voyage Show. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans cette aventure que nous construisons ensemble. Vous êtes de plus en plus à nous écouter et ça nous fait chaud 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 au cœur. Alors aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir une invitée de marque, c'est notre amie Mina qui nous a accordé un peu de son temps pour une interview chaleureuse, pleine de bon sens et de franchise. On vous laisse découvrir au fil des minutes une belle personne qui pense avant tout aux autres et ça, ça ne peut inspirer que le respect. On parle de son parcours de vie, de son association Voyageons avec Mina, de voyage, de la Corée et bien plus encore. Alors restez bien à l'écoute, c'est parti, accrochez-vous bien, on est dans Boulègue. Allez Boulègue. Aïe aïe aïe. Bon alors comment tu vas Mina, ça va?
Ça va bien.
Bah écoute, je suis très heureux de pouvoir t'interviewer aujourd'hui.
Oui, moi aussi. Gentil.
et donc là tu as Jeanne et Julien.
Ok, enchanté.
Enchanté.
Rien de particulier, le son a l'air bon de mon côté.
Ça crépite un petit peu, ouais. Sinon ça va.
Ouais, mais quand Mina elle parle, tu vois, ça crépite pas, on n'a pas de problème.
C'est juste toi Félix, on t'aime pas, c'est pour ça. On te censure.
C'est la censure.
Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça?
Oui, ça va.
Ah, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Bon, quelle belle voix, Giuliani. Quelle belle voix.
Merci.
Alors, Mina, comment on doit t'appeler? Mina, il y a Mina?
Mina.
Mina, ok.
C'est plus court, c'est mieux.
On part pour Mina, alors.
C'est parti. Alors, Mina,
Non, vas-y, pardon.
Tout simplement, hein, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire peut-être d'où tu viens, où tu as grandi, etc.
Ok. Moi, c'est Mina, j'ai 35 ans. Je viens de Lyon, mais j'habite à Grenoble, parce que j'ai fait mes études à Grenoble. Et je suis restée à Grenoble. Et j'ai grandi sur Lyon. Et j'ai fait toute ma scolarité sur Lyon. Voilà.
D'accord. Bon, ben, on passe le bonjour aux Lyonnais et aux Lyonnaises.
Ouais, c'est ça. Mais je préfère Grenoble que Lyon.
Ah, d'accord. Mais il fait plus froid, non, à Grenoble qu'à Lyon.
Ouais, mais c'est mieux. Au niveau de l'accessibilité, tout ça, pour les personnes à mobilité réduite, c'est mieux.
Ah, d'accord.
Les gens sont plus sympas.
C'est plus petit aussi, peut-être. Hein. C'est plus convivial, peut-être.
Ouais, c'est ça. Et puis il y a les montagnes, c'est cool. On peut aller vers Disney, c'est bien.
Il y aurait une petite communauté coréenne aussi à Grenoble, non?
Oui, je les ai rencontrés et j'ai fait des cours de coréen avec eux.
Ah, cool.
C'est bien. Ouais, après, ouais. J'ai dû arrêter parce que mon emploi du temps ne le permettait plus, mais voilà, ils sont cool.
Wow, ok. Bah, dis donc, Mina, tu es partout? Tu es partout dans la communauté coréenne. On te retrouve.
Ouais, j'essaye. J'aime bien découvrir la Corée, tout ça.
Ok, on en reparlera.
Ouais.
C'est vrai que, on va parler de ce que tu fais, donc de l'association, mais on va aussi parler de toi. C'est pour ça qu'on se demandait où tu avais grandi. Si tu pouvais décrire l'environnement dans lequel tu as grandi, ta famille, ton environnement familial. Ton entourage?
Alors moi, je suis l'aînée, j'ai deux frères. J'ai un frère de 31 ans et un frère de 24 ans. Ben, j'ai mon père, ma mère, voilà, comme tout le monde. Mais moi, j'ai une particularité, c'est qu'à l'âge de 7 ans, j'ai été en institution pour suivre ma scolarité parce que j'avais des soins. J'avais 3 fois de la kiné parce que je suis handicapée depuis la naissance,
Ok.
voilà, dû à une prématurité à 6 mois. Voilà.
D'accord.
Mais je n'ai pas de problème avec ça. Ça roule.
Ça
Ça
roule.
roule. Ouais. Ça roule. J'ai vécu comme tout le monde, en fait. J'allais à l'école. Il y avait un taxi qui venait me chercher le matin et qui me ramenait le soir. Et voilà, par les soins, j'avais de l'ergothérapie, j'avais de la kiné, j'avais l'orthophonie, tout ça, tout ça. Et voilà.
D'accord.
Sinon, mon cocon familial, c'était comme tout le monde. Hein. Mes parents, ils ne faisaient pas de différence. Quand je faisais une bêtise, c'était à la même enseigne. J'avais pas de préférence. Voilà. Après, j'ai eu une adolescence comme tout le monde, avec juste des particularités, parce que, bah, dû à mon handicap, j'avais un emploi du temps très chargé, donc avec de la kiné, tout ça. Mais ça a été nécessaire et je vais pas me plaindre. Hein, j'ai eu de la chance. D'avoir la vie que j'ai de la chance d'avoir la vie que j'ai.
Ok,
Il faut toujours
et
rester
par
positif.
c'est ça. Oui, hein, c'est
Justement.
notre devise. Hein.
Ouais, c'est ça.
Et on a
Et
vu sur Facebook toutes tes vidéos, tes interviews, Instagram, tu es toujours justement très souriante, positive. Tu as toujours été comme ça?
ouais, j'ai toujours été comme ça parce que en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment dans la souffrance physique et psychologique. C'est-à-dire que moi, j'avais des amis et j'en ai perdu beaucoup dû à des maladies. Moi, je n'ai pas une maladie. C'est dû à ma prématurité. Donc, j'ai juste des problèmes musculaires. J'ai de l'arthrose depuis l'âge de 16 ans. Donc, j'ai voilà, j'ai des douleurs d'immobilisation parce que je suis tout le temps sur un fauteuil, tout ça. Mais après, je n'ai pas une maladie évolutive. Je n'ai pas la mort qui me tend. Qui me pend au bout du nez. Et je pense qu'il faut savoir reconnaître la chance qu'on a bah, d'être en vie et de ne pas avoir beaucoup de souffrance et de toujours voir la vie positivement. J'ai rencontré des gens qui m'ont donné une belle leçon de vie. Et c'est pour ça que de se plaindre tous les jours, ça ne sert à rien.
Et donc tu dis que tu as rencontré des personnes, par contre, qui avaient des maladies et qui ont malheureusement hein, succombé à ces maladies-là. Est-ce que c'est des personnes que tu as rencontrées dans le cadre de tes soins
À l'école,
à l'école?
et puis après on a grandi ensemble, et puis malheureusement ils sont partis. Et bah, quand on a ces gens-là à côté, bah, on revoit les valeurs de la vie et ça nous donne une belle leçon de vie. Et moi, j'ai pas à me plaindre en fait. C'est ça que je veux faire passer comme message, c'est que c'est pas parce qu'on a un ongle cassé que c'est la fin du monde en fait. Faut toujours voir le côté positif, même dans le négatif, je trouve. Je sais pas si vous m'avez compris.
Complètement.
Ah mais moi je comprends, hein, je comprends tout à fait, hein, Mina moi aussi. Hein, c'est pas parce que j'ai un ongle cassé que ça y est, c'est là, je m'arrête de fonctionner et de respirer. Donc non, mais tu as tout à fait raison. Hein, il faut aller de l'avant. Hein, à mon avis, j'allais dire encore, on est reparti. Il faut aller de l'avant et puis pas se laisser abattre hein, par les aléas de la vie, parce que c'est ça, c'est la vie. Quand on dit c'est la vie, c'est assez bateau comme expression, mais il y a des choses qui peuvent arriver à tout moment et on n'est pas forcément préparé à ça.
C'est ça.
Est-ce que voilà, c'était plus pour parler de toi, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de te connaître toi en tant que personne. Et puis au-delà de ça, c'est aussi de connaître ton travail, ce que tu fais dans le cadre de ton association. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton travail, ton association, comment elle a vu le jour?
Bah, en fait, mon association, c'est Voyageons avec Mina. Comment elle a vu le jour? C'est parce qu'en 2016, je suis partie en Corée du Sud faire un voyage comme tout le monde, une touriste, quoi. Et en fait, j'ai pris la compagnie Turkish Airlines et malheureusement, au retour, ils m'ont cassé mon fauteuil qui coûte 23 700 euros. Et vraiment, ils m'ont cassé, donc j'avais plus de fauteuil. Et pour pas que ça arrive aux autres, bah, j'ai décidé de bâtir cette association. Et ce sera une association de voyage, puisqu'elle a été créée en 2018. Et ça sera une association, là, on est en train de faire les fondements, et c'est une association de voyage. En fait, les gens en situation de handicap au sens large, parce qu'il n'y a pas que le handicap moteur, il y a le handicap sensoriel et social. Souvent, il y a des gens qui veulent partir en voyage, mais ils n'ont pas les moyens, et nous, on va être là pour trouver des solutions, des méthodes pour économiser quand on a des faibles revenus, parce que le voyage, c'est un droit pour tous, en fait. La culture, surtout. Parce que visiter un pays, c'est apprendre sur l'autre, sur d'autres populations, et voilà. Et je trouve que c'est important.
Quand tu dis personne en situation de handicap, moi, j'ai une question, désolé de t'interrompre.
Oui.
Mais c'est par rapport au vocabulaire, en fait. Parce que est-ce qu'on appelle… comment est-ce qu'il faut dire ? C'est personne en situation de handicap, personne handicapée. Est-ce qu'il y a un terme préférentiel ?
Bah, non, moi, on peut dire tout. Hein. Moi, je ne suis pas choquée quand on dit personne en situation de handicap ou en personne handicapée. Moi, ça, oui, on a un handicap, il ne faut pas se leurrer et… Soit après, c'est pas.
C'est la forme, quoi. C'est juste sur la forme.
Ouais, voilà, pas... c'est ça.
Ouais. Et les personnes dont tu parles, donc, est-ce que tu pourrais peut-être préciser les types d'handicap, puisque tu dis que ce n'est pas que handicapé moteur, mais personnes en situation de handicap au niveau sensoriel, tu disais, au niveau social. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui sont dans ces situations-là, qui aimeraient voyager, mais qui ne peuvent pas à cause justement de leur handicap?
En fait, c'est par rapport à mon parcours aussi, par rapport à mon parcours professionnel. Moi, j'ai été secrétaire de direction pendant 3 ans dans une école maternelle en REP. Et c'est vrai que moi, je voyais une disparité entre les enfants. Souvent, il y avait des enfants, et ils ne faisaient que regarder la télé pendant les vacances. Et il y avait des enfants qui allaient au musée, qui voyageaient justement, qui partageait des choses avec les parents. Et moi, j'ai trouvé ça injuste parce que un enfant ou un adolescent ou un adulte, c'est déjà un enfant, il crée son environnement culturel. Et je trouve que de donner la chance à tous les êtres humains de découvrir la culture, et ben, c'est important parce que ça crée l'adulte qui sera demain par la culture. Moi, j'ai eu la chance à travers l'école où j'étais à Lyon, de pouvoir aller à Paris, manger à la Tour Eiffel, aller à l'Élysée, tout ça. J'ai découvert plein de choses. Je suis passionnée par les impressionnistes parce que j'ai découvert le musée. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, donc le musée, c'était pas trop ça. Eh ben, j'ai découvert la peinture, j'ai découvert plein de choses, et moi, c'est ce que je veux transmettre, en fait. C'est pas parce qu'on a un handicap physique ou n'importe lequel qu'on n'a pas le droit aux mêmes droits que les autres.
Quand tu dis que tu as eu accès à la culture via l'école, c'est intéressant. Donc, chez toi, ce n'était pas forcément accessible, mais tu as pu aller à Paris, découvrir certains musées à Paris.
J'ai pu aller en Allemagne, j'ai pu aller en Espagne, j'ai pu découvrir plein de choses. J'ai pu voir que des fois, les cultures ne sont pas les mêmes. Voilà, et ça fait une ouverture d'esprit et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, ouverture d'esprit.
Ok, parce que donc dans le cadre de de l'école scolaire, tu allais en Allemagne, en Espagne, tu faisais des voyages à l'étranger, à Paris. Dis donc, c'était une belle école, ça. Hein. Moi, j'aurais bien aimé.
Oui, il y avait beaucoup de rééducation, tout ça. Mais au niveau de l'école, moi, l'école, ça, en fait, j'ai eu beaucoup de rééducation. Pour vous donner un exemple, une journée typique de l'âge de 7 ans jusqu'à mes 13 ans, j'avais 3 fois kiné par jour. J'avais une heure d'ergothérapie, en fait, le matin. J'avais orthophonie parce que j'avais des lacunes pour apprendre à lire, parce que bah, ça ne se voit pas, mais je ne vois pas comme tout le monde, en fait. J'ai une autre vision que vous, apparemment. Et donc, il fallait que j'apprenne à m'adapter à ces difficultés, qui sont plus des difficultés maintenant. Et en fait, moi, l'école, c'était une récréation, en fait, pour moi. C'était vraiment une récréation. Donc, voilà. Moi, l'école, j'ai toujours bien aimé. C'était le petit moment de récréation, oui, c'est ça.
Mais tu étais bon élève en plus à l'école.
Ouais, ça va. Ça
Ouais,
va.
ça aide. Et ça aide aussi, hein.
Rapport à mes frères, c'est sûr.
Ah bon, d'accord. On va pas non plus, hein, commencer à casser du sucre sur le dos de tes frères, mais d'accord.
Maintenant, ils ont un beau métier maintenant. Ils sont
Ah
boulangers.
ben, tu vois comme quoi, hein, parfois,
Ils
parfois.
ont boulanger, pâtissier, donc ça
Joli.
va. Ouais,
Joli.
c'est cool.
Alors, on va entamer le volet Corée. Comme tu as déjà voyagé en Corée, pourquoi
Alors,
être venue chez nous, Mina? Pourquoi être venue chez nous?
la
Pourquoi habiter
Corée,
là-bas?
c'est par hasard que je suis tombée dessus en regardant un drama. Et en fait, au fur et à mesure de regarder les dramas, je me posais plein de questions sur l'histoire de la Corée. Sur comment les gens vivaient, est-ce que les dramas, est-ce que c'était la vraie vie ou pas? Donc j'ai commencé à chercher et je suis tombée sur des vidéos de Laurent Cassia. Et une fois, il a parlé sur l'envie de partir en voyage. Et en fait, je m'étais dit, bah, c'est bon, hein, il parle tout le temps des voyages, pourquoi moi je peux pas y aller? Et mon entourage était un peu sceptique en disant, bah, quand même, la Corée, c'est pas à côté, est-ce que tu vas y aller? Et en fait, je l'ai organisé en 3 semaines
Ouais.
et
Pas
je
mal.
suis partie avec une amie à moi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé avec une vidéo et par des dramas et par, puisque je m'intéressais un peu à l'histoire et que ça m'a plu et que voilà. Et que j'ai lu un livre d'Ida Dossi. Et
Ouais.
je me suis dit, ben, on va y aller et puis on verra.
Et donc la Corée dans les dramas, est-ce que c'est pareil que la Corée en vrai?
Non, 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 justement, c'est pas pareil. Bah, après, c'est un peu romancé et j'ai pas. Le côté drama, maintenant, je l'ai un peu laissé tomber parce que c'est un peu trop mielleux pour à mon goût et voilà, quoi, c'est pas.
Donc,
C'est.
parti à la
Voilà. Moi,
recherche des beaux coréens, peut-être, non?
De quoi?
Tu étais parti à la recherche des beaux coréens, des dramas, peut-être.
Non, parce que j'ai ce qu'il faut, donc ça va.
On retrouve Julien, notre romantique.
Non, mais des fois,
Mais
c'est ça, les jeunes femmes, elles sont à la recherche des acteurs.
par contre, j'ai pu me faire une opinion. Par exemple, j'aime pas trop la K-pop. Alors, quand je dis que j'aime pas trop la K-pop, on me dit, ah bon, mais pourtant. J'aime pas trop le côté sulfureux de la Corée, je préfère le côté historique, traditionnel, tout ça. Je trouve ça plus intéressant.
C'est vrai que la K-pop, ça sulfure, hein.
Oui.
C'est très sulfureux. Mais la K-pop, en même temps, on aura un sujet, hein, sur. Oui, sulfuré, tu connais, non, c'est un nouveau verbe, Giuliani. Et donc, la K-pop, c'est large, hein. On aura un sujet certainement sur la K-pop, la K-pop, mais c'est vraiment large comme terme. Ça englobe, ça
Oui.
regroupe beaucoup de styles de musique différents. Donc, bon, toi, je pense que tu parles de la K-pop que tu vois plus à la télé. Bah, l'exemple flagrant, c'est BTS,
Oui, c'est ça.
c'est une marque qui est vraiment très connue à l'international, mais il n'y a pas que ça. La K-pop, c'est. Bah, moi, je ne suis pas spécialiste de la K-pop. Mais ça englobe. Jeanne, elle connaît plus, elle maîtrise plus le sujet. Elle dit rien là-bas, mais je la vois. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Non, c'est pas moi non plus, hein, la spécialiste, mais oui, je sais qu'il y a des débats en tout cas à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie réellement la K-pop? Est-ce que c'est vraiment que de la pop coréenne, donc pop en tant que style musical, hein, ou est-ce que c'est plus large que ça? Bon, moi, j'ai pas la réponse.
Oh. Ah, t'as vu, c'est ce
On
qui
garde
va.
ça pour la prochaine fois.
Faut pas te
Ok.
mouiller, hein.
On invitera un vrai spécialiste.
C'est vrai que des
Oui,
fois, quand je dis j'aime pas la K-pop, On me tape un peu sur les doigts et t'aimes la Corée? Ben oui, mais il n'y a pas que ça en Corée.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que tu retiens justement de la Corée?
Ben, moi, quand je suis partie, c'est la gentillesse des gens. C'est la bienveillance. C'est dans les métros, j'étais agréablement surpris à Séoul. Et on était tout le temps dans la bienveillance. Et puis, j'ai les cheveux raides, mais c'est vrai qu'il y avait les Adjouma qui n'arrêtaient pas de me toucher le visage et les cheveux, parce que j'avais les cheveux bouclés, et elles se posaient plein de questions. C'était assez. Et puis, les petits papis qui voyaient mon fauteuil, qui me disaient sur leur scooter, qui me disaient ouais, c'est un beau fauteuil. Et puis, oui, les jeunes aussi, ils étaient très sympas. J'ai fait des connaissances avec des jeunes dans le métro. C'était vraiment bien. Je me suis retrouvée avec un papy qui m'a chanté du Edith Piaf dans le métro. Donc, c'était vraiment cool. Après, il y avait des Adjouma qui n'étaient pas très... qui m'ont vu arriver de loin. Souvent, je demandais des choses et... Bon, elle ne me répondait pas, mais après, ça, c'est de partout. Hein. C'est pas.
Oui, oui.
C'est partout. Ouais. C'était vraiment quelque chose d'enrichissant et de dépaysant, surtout.
D'accord. Et dans ton voyage en lui-même, donc tu pars avec une amie, hein, c'est ça. Vous décidez
ouais.
de partir, vous organisez ça en 3 semaines. Turkish Airlines, hop, vous prenez l'avion, escale à Istanbul, vous atterrissez à Incheon, donc à l'aéroport, ouais. vous arrivez à Séoul, mais là, tu connais rien, enfin, à part les vidéos de Laurent
ouais.
Cassia, tu connais pas la Corée, tu sais pas comment ça fonctionne, tu parles pas coréen, tu parles anglais? Oui, tu parles anglais.
Oui.
Hein,
puisque,
oui. Comment tu fais alors? Tu vas où?
Eh ben, en fait, on avait un peu organisé, puis on avait pris un Airbnb. Et il y a mon ami Unsep, parce que c'est devenu mon ami. Il nous a un peu guidés, et puis on avait parlé un peu avant, et puis on a échangé, et puis il nous a donné des conseils, tout ça. Mais il pouvait pas être là parce que il travaillait beaucoup, donc on communiquait par Messenger, et puis voilà, et puis après on visitait, et puis on se laissait un peu guider, et puis il y avait des gens qui nous ont emmenés vers les temples, qui nous ont, parce que même si on avait la barrière de la langue, les Coréens, par exemple, quand on cherchait des choses sur la carte, ils nous emmenaient à l'endroit même s'ils avaient des choses à faire, ils lâchaient tout, et puis ils nous emmenaient, et puis voilà. Et c'était vraiment bien.
Ouais, c'est ce qu'on retrouve souvent, la bienveillance coréenne.
Ouais.
Et donc, Unsop, mais c'est qui Unsop? Tu me parles de Unsop, mais c'est qui?
C'est celui qui m'a loué son Airbnb.
Ah, ok. Ok. Ah oui, donc l'hôte du Airbnb.
Ouais.
Donc voilà, il t'a aussi montré.
Ouais,
il vous
ça.
A montré parce que vous étiez deux. Hein, c'est une amie d'enfance
ça.
Qui est venue avec toi ou d'école.
Moi, c'est une amie. J'ai rencontré parce que en fait c'était mon auxiliaire de vie, parce qu'il faut savoir que dans les gestes de la vie quotidienne, je peux pas me lever toute seule, je peux pas me laver toute seule, je peux pas, et donc j'ai besoin d'aide tout le temps en fait. Donc j'ai tout le temps quelqu'un avec moi. Et elle est partie, et puis après on a gardé contact, et c'est devenu une amie, et puis voilà, elle m'a accompagnée parce qu'elle connaissait ma pathologie, tout ça. Voilà, elle m'a accompagnée, puis c'était cool.
Est-ce que elle s'est dit ah cool, je vais en Corée, ou elle s'est dit merde, c'est quoi ce pays?
Non, elle connaissait pas, et elle m'a dit bah vas-y, viens, on y va.
Oui, c'était l'aventure un peu. Hein.
Pas regarder les dramas avant de partir. Hein.
Et puis elle a bien aimé, tu vois, là. On est un peu des fofolles toutes les deux, donc on s'est un peu bien retrouvées. Okay. En fait, il faut jamais se mettre de barrière, je pense, dans la vie. Il faut toujours tenter, et puis si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bah, tant pis.
Belle philosophie. Pas de barrière. Il faut foncer.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en termes de différence culturelle et en termes de regard des autres envers toi en situation d'handicap par rapport à la France? Si tu devais comparer, est-ce que
Il y a quelque chose qui m'a surprise, c'est qu'en France, on est un peu fondu dans la masse. En Corée, quand j'étais toute seule, parce que je me baladais dans les marchés toute seule, puisque ma copine, elle allait de son côté des fois et moi, j'allais de mon côté, ils étaient un peu paniqués de me voir toute seule, en fait. Ils me demandaient à chaque fois, vous êtes accompagnée? Non, ma copine, elle est pas loin, mais je me balade. Non, mais est-ce que vous avez besoin de quelque chose, en fait? Et j'ai senti qu'en Corée du Sud, bah, il n'y avait pas la même notion du handicap. C'était,
D'accord.
par exemple, il y avait les petits, je les appelle les petits bonhommes rouges, mais ils ont un petit chapeau avec, et ils donnaient des informations, tout ça. Et ben, plusieurs fois, je me faisais arrêter et à chaque fois, je me baladais, je prenais des photos ou des choses comme ça. Ça les intriguait que j'étais toute seule, en fait.
Ouais. Les petits bonhommes rouges, c'est des gens qui travaillent pour l'office du tourisme.
C'est ça.
C'est ça, oui. C'est pas Julien et moi.
Non, c'est pas nous.
Eh, ça aurait pu aujourd'hui, hein, c'est
Ça
vrai
aurait
que.
pu, oui.
Ça aurait pu, oui. Ils sont souvent sur les sites touristiques avec un gros manteau rouge et un chapeau de cow-boy.
C'est ça. Bah, à la fin du voyage, ça m'agaçait un peu parce qu'en fait, je voulais juste me balader. En fait, j'avais pas. Je regardais, j'étais tranquille et. Mais ils étaient plutôt cool parce que souvent ils me demandaient si j'avais soif, si j'avais faim, et je leur disais non, non, ça va, merci. Et puis après, ça engageait la conversation quand même quand je les voyais deux, trois fois. Et voilà.
Tu disais au niveau historique et culturel, la Corée, c'est un pays qui t'intéresse. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'éléments culturels, d'éléments historiques que tu affectionnes particulièrement?
Ben, déjà, le roi Sejong. J'aime bien la notion du hangul, du tout ça. Je joue beaucoup sur tout ce qui est caractère chinois, tout ça. Aussi l'histoire de la Corée m'intéresse parce que c'est un peu le phénix, en fait, la Corée, elle renaît toujours de ses cendres, en fait, avec tout ce qu'elle a vécu, toutes ces guerres. Et puis, ouais, c'est super intéressant, en fait, la Corée. La notion du travail aussi, c'est trop, je trouve, des fois, mais je trouve aussi que, en fait, ils sont toujours dans le travail, je sais pas, comme en France, où il y a les grèves, voilà, où il y a. C'est pas pareil, c'est pas pareil, mais moi, je le vois d'un regard extérieur après. Quand je parle avec mon ami Hansop qui est parti de la Corée, et ben lui, il m'a dit, ben, je préfère être. Maintenant, il est aux Pays-Bas, il préfère être aux Pays-Bas parce que
Ouais.
le travail, c'était un travail acharné. Donc voilà. Mais oui, c'est plus l'histoire de la Corée en général. J'aime bien.
Ok. Bah, parce que toi, dans ton travail, est-ce que tu es coréenne dans ton travail? Est-ce que tu as vraiment cette culture du travail? Tu travailles
Ouais,
beaucoup? Ouais.
oui,
C'est faut t'arrêter, quoi. Faut dire arrête, Mina, arrête de travailler
c'est
maintenant, ça suffit.
ça. Bah, il y a mon assistante qui est à côté de moi et qui peut me
Un peu
confirmer.
confirmé, d'accord. Mais Jeanne avait une question pour ton assistante, justement.
Je voulais savoir.
Bonjour.
Bonjour.
En rigolant, je voulais dire comment est Mina au travail? Comment est la chef? Est-ce qu'elle est tyrannique ou est-ce que c'est plutôt cool de travailler avec elle?
Attention. Attention.
Bon, Mina, tu sors, s'il te plaît, 2 minutes, et puis.
Non, elle est adorable au travail. Les ambiances de travail sont très bonnes. Elle sait tout à fait ce qu'elle veut. Elle est pleine d'idées, elle est dynamique et c'est très agréable de travailler avec elle.
Voilà.
Oui. Non, des fois je suis un peu en mode, j'appelle ça en mode petit dragon parce que bah, j'aime bien quand les choses sont faites en temps et en heure. Donc je suis un peu une râleuse, mais ça se voit pas, mais je suis un peu une râleuse et des fois j'oublie la notion du temps, c'est que je peux envoyer à mes bénévoles, à mon assistante à 22 h. Au fait, demain, il faut faire ça, hein. Oui, mais il est un peu 22 h, là. Hein, voilà. C'est un peu, mais ils sont vraiment cool, mon équipe, ça va.
Et bah, tu travailles avec combien de personnes?
On est sept.
7, tous bénévoles.
Sauf Elida.
D'accord. Ok.
Voilà. Et ah oui, j'ai oublié ma stagiaire, la pauvre. Huit.
La pauvre, la stagiaire, c'est important, la
Oui,
stagiaire. D'accord.
c'est une bonne équipe, hein, quand même.
Oui, c'est une bonne
Et
équipe.
comment ça se passe en termes de recrutement, entre guillemets, les bénévoles? Tu passes des annonces ou comment ça se passe?
En fait, les bénévoles, je les connais tous, c'est
Ah.
de mon entourage. Ils sont touchés par le handicap eux-mêmes, donc voilà, ils sont à fond dans la cause aussi. Et puis, il y a des gens qui se sont greffés, c'est parce que de loin ou de près, ils ont été touchés par un membre de leur famille, par le handicap, ou c'est tout simplement le voyage qui les intéresse. Et une autre dimension du voyage, voilà.
D'accord. Okay.
Parce que c'est pas du tout la même chose. Invalide, eh ben, il peut partir et en mode sac à dos. Nous, il faut un certain confort.
Bien sûr.
Je peux pas dormir dans une tente, par exemple. Je peux pas. C'est pas possible. Puis en termes de fatigabilité, de frustration aussi, parce que on parle du côté positif du voyage. Mais il faut savoir qu'en voyage, une personne en fauteuil, elle ne peut pas tout faire. Les randonnées en Corée, fallait que j'oublie, quoi. Donc,
C'est vrai, c'est compliqué.
voilà, et puis les temples, bah, je ne pouvais pas visiter à l'intérieur. Donc ma copine, elle prenait les photos et je regardais de l'extérieur, en fait. Et c'est une autre façon de voyager.
Pour les temples, c'est un gros problème. Ça a été soulevé plusieurs fois ces dernières années, notamment par des journalistes. Parce que la plupart des pratiquants dans les temples bouddhistes, c'est des personnes âgées. Et elles ont de moins en moins accès donc à l'intérieur des pavillons,
Oui,
malheureusement.
parce qu'il y a des rampes en fait pour voir les différentes portes, tout ça, mais après on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Et bah, moi, c'était un peu dommage de prendre en photo et de me montrer en fait. Ouais.
Justement, tu parlais de Grenoble et de Lyon, tu faisais un comparatif en termes d'accessibilité en Corée. Qu'est-ce qui t'a marqué? Quels sont les points positifs et négatifs? Est-ce que c'est bah, Séoul? Je ne sais pas si tu es sorti de Séoul, mais est-ce que Séoul, c'est une ville qui est quand même qui reste accessible hein, pour des personnes à mobilité réduite? Ou est-ce que c'est mieux qu'en France? C'est différent?
C'est
Quel est ton
différent,
avis?
c'est pas pareil. C'est par exemple en Corée, moi je suis un peu une cascadeuse, c'est-à-dire que je m'en foutais qu'il n'y avait pas de trottoir, je voulais y aller, et ben,
Descends les escaliers du métro avec ton fauteuil.
j'y allais. Non, mais on trouvait toujours des solutions et ben. Des fois, il y avait des trottoirs qui n'étaient pas finis et ben, c'était un peu compliqué. Après, il y avait des restaurants, je voulais aller, ben, ce n'était pas spécialement accessible. Tout ce qui était un peu restaurant traditionnel, c'était compliqué. Il faut s'asseoir par terre, ben,
Ouais.
je ne vais pas y aller. Après, j'ai une petite anecdote, c'est qu'une adjoma, elle m'a vue de loin et elle m'a dit, viens. Bon, je suis allée. Ils étaient tous partis. Moi, elle m'a mis une espèce de table pour que je mange parce que je pense qu'elle a vu que je voulais venir, mais c'est rare. Et puis, mais après le voyage en tant que personne en situation de handicap, il faut savoir qu'il y a de la frustration, c'est que des fois il y a la fatigabilité. Il faut apprendre à se reposer, à relativiser aussi. Et c'est ce que je veux apprendre aux gens dans mon association, c'est que on n'est pas comme tout le monde, entre guillemets, et qu'il faut voir le voyage autrement. C'est une ambiance, c'est regarder autour de soi, c'est pas pareil de voyager en tant que valide et en tant qu'handicapé, en fait. Il faut pas se leurrer.
Ouais, donc en fait, tu es en train de dire que bah, c'est un peu, il y a une dualité un petit peu. Donc d'un côté, bah, toi qui es cascadeuse, tu veux en faire beaucoup, tu veux partir à l'aventure, tu veux aller te plonger dans un tas de choses. Mais d'un autre côté, il faut aussi essayer de ne pas trop en faire et de se restreindre sur certaines choses et avoir conscience aussi qu'on ne peut pas tout faire.
Oui, faut être réaliste. Et je pense que plus on est réaliste, plus le voyage va bien se passer, puisqu'on le sait d'avance. Donc, et c'est vrai que quand moi je suis partie en Corée, ben, maintenant j'en parle avec le recul, mais j'étais un peu frustrée. Il faut apprendre à la gérer. Et puis, on est accompagné. Donc, l'accompagnant, ben, des fois, il est démuni. Donc, il est un peu triste. Mais nous, il faut voir le voyage autrement. La Corée, c'est une ambiance. Les street food, tout ça, voilà, il faut être conscient des difficultés qu'on peut rencontrer. Je parle de la Corée, hein, mais il n'y a pas qu'en Corée, hein, dans tous les pays, à un moment, on va être confronté à des choses qui sont différentes.
En tant que valide, moi je ne me rends pas compte de ce genre de choses. Tu vois, quand je voyage, ben, je me dis, ben, j'ai pas vraiment de limitation, de limite. Bon, il y a peut-être la fatigue qui va rentrer en compte au bout d'un moment, mais je ne me dis pas en termes d'accessibilité, ah ben là, ça va coincer, donc peut-être faut que je me rabatte sur quelque chose d'autre. Ou voilà, je ne peux pas être non plus spontané à 200%. Enfin, moi, je le suis, mais une personne en situation de handicap, ça ne va pas être le cas. Il y a de la frustration qu'il faut gérer aussi. Donc tout ça, c'est intéressant parce que, et oui, avec la personne qui t'accompagne aussi, une fois que tu es frustré et que faut aussi arriver à gérer,
C'est ça.
à gérer tout ça, quoi. C'est pas facile, je pense.
Pas facile, mais moi, en fait, ce que je me disais, comme
On peut passer.
la frustration, en fait, ça s'apprend à se dire, par exemple, je sais pas, j'ai de la chance d'être dans un pays, de pouvoir être là, comment je peux profiter du moment? Oui, ton handicap, il est là, bah, essaye de voir par rapport à la nourriture, par rapport à ce que tu peux faire, par rapport en Corée, bah, il y avait le jardin des secrets, du secret, je sais plus ce
Le
que
jardin
j'allais
secret.
souvent là-bas parce que j'aimais bien l'ambiance. Et voilà, je me calmais comme ça, ma frustration. Je rencontrais des gens, je leur parlais, je leur disais bonjour. Voilà, c'est une autre façon de voyager. Et voilà. Il ne faut pas envier. Moi, le fait que je sois handicapée, j'ai jamais été jalouse d'invalide ou quoi. Parce que j'ai ma propre vie et il ne faut pas envier les autres, c'est ça en fait.
Bah, c'est vrai, hein, je peux pas contester ce que tu viens de dire, hein, parce que bah, c'est facile à dire. Pour certaines personnes, c'est difficile d'accepter ça, justement. Donc, tu as toujours tendance à te comparer aux autres, si tu veux. Mais et en fait, si tu veux, à mettre le curseur de ton bonheur et de ton niveau de bonheur, en fait, par rapport aux autres. Et bon, ça, c'est vraiment difficile à gérer, je pense, et à accepter aussi, et de te dire, bon, voilà, moi, je suis comme ça. Et puis, de toute façon, ça ne va pas changer. Donc, ça ne sert à rien que je me compare aux autres ou que j'envie l'autre, puisque ben, de mon côté, ça ne va pas changer. Justement, si je veux faire changer les choses de moi, ben, il faut que j'arrive à atteindre le bonheur tel que je l'entends moi, pas tel que Monsieur X ou Madame Y va l'entendre.
Oui, moi j'ai une devise, c'est la devise de l'association d'ailleurs, c'est nous sommes des corps assis mais des âmes debout. C'est que on peut être handicapé mais entreprendre des choses et donner la possibilité aux autres à travers, bah, pour moi, ma propre expérience ou l'expérience de mes bénévoles, hein, parce qu'il y a mes bénévoles aussi ont leur propre expérience et comment arriver à une positivité envers soi-même, pas envers les autres, envers soi-même en fait. Comment rentrer dans sa petite bulle pour être positif? Voilà. Après, hein, je cache pas que je suis comme tout le monde, hein, il y a des fois où ça va, des fois ça va
Non,
pas.
mais bien sûr. Ouais,
Et
ouais,
voilà, hein, c'est pas tout n'est pas rose, mais
ouais. Ouais, je pense que
j'ai
c'est
eu
un
la
concept.
chance
C'est un
de
concept.
pouvoir. Pardon,
Non,
vas-y.
pardon, vas-y, je te coupe. Je te coupe. Dis-moi, arrête, finis.
J'ai eu
Dis-moi.
la chance de pouvoir partir en Corée et voilà, je discute avec des gens sur le Discord de Laurent Cassia qui sont valides et qui n'ont pas la chance que j'ai eue de partir en Corée et qui rêvent de partir en Corée.
Oui, après, c'est un concept universel, hein. La recherche du bonheur, elle est très personnelle et elle devrait être vraiment personnalisée parce que c'est pas seulement les personnes en situation de handicap. Bien
Ouais,
sûr, on touche à un sujet qui est spécifique et particulier, mais pour tout être humain, je pense que c'est la quête ultime, hein,
c'est ça.
atteindre le bonheur. Et comment tu vas y arriver? Tu as des coups durs dans la vie, tu as des coups de mou, tu as des hauts et des bas, bien sûr, ça peut pas être rose tous les jours, hein. Et donc, comment est-ce que tu vas arriver à te transcender, toi, sans regarder les autres, faire abstraction des autres et justement agir aussi, parce qu'il faut agir. Si tu restes comme ça, il n'y a rien qui va se passer, quoi. Donc il faut agir, il faut être proactif dans ta recherche du bonheur.
C'est ça. C'est ça. Et puis moi, j'ai eu du positif dans ma vie, mais j'ai eu aussi du négatif. C'est que j'ai eu beaucoup de rééducation, j'ai eu beaucoup de. Donc le scolaire, c'était un peu après. Et en fait, j'ai su lire à 14 ans. Vraiment lire à 14 ans. J'ai fait mon collège par le CNED à distance. Et les professeurs ne croyaient pas trop en moi parce que pour eux, j'avais pas grande ambition d'aller hautement dans les études. Et justement, ils voulaient me mettre en atelier protégé. J'ai rien contre les ateliers protégés, hein. C'est des milieux où il y a des personnes en situation de handicap qui font des travaux manuels pour les grandes entreprises. Mais j'ai rien contre eux, hein. C'est vraiment bien pour ces personnes-là. Et moi, je voulais pas, je voulais aller à la fac, je voulais faire des études et je me suis battue pour aller à la fac. Alors, j'ai fait un bac pro secrétariat parce qu'on m'a pas laissé trop le choix, mais après, je suis allée en fac de lettres. J'ai fait une licence de lettres et après, j'ai fait un BTS communication parce que je voulais voir ce que c'était. Mon BTS, je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'avais plus envie d'aller à l'école parce qu'il faut savoir que j'ai fini mes études, j'avais 26 ans, dû à mon retard scolaire et c'est vrai que c'était pas facile de se retrouver avec des minots de 18, 20 ans et qui étaient pas dans le même. J'ai toujours été en décalage avec ma génération et c'était frustrant, mais j'y suis arrivée et faut se battre dans la vie, en fait, c'est le message que je veux faire passer.
Ouais, bien sûr. Après, il faut le voir. Si t'as réussi à lire à l'âge de 14 ans et que tu as fini tes études à 26 ans, c'est quand même un
Ça,
beau
c'est rapide
parcours.
quand même. Ouais. Oui, ça va.
Donc, tu vois, moi,
Mais
j'ai
ça,
appris à
c'est
lire, je sais pas, peut-être j'avais 6 ans ou un truc comme ça, et j'ai jamais fini mes études. Tu vois. Donc, bon.
Mais aussi, j'avais l'entourage qui valait. Moi, mes parents m'ont toujours poussée à aller là où je voulais aller. Et ils savaient très bien que le temps n'était pas pareil que ceux de mon frère ou de mes frères et qu'il fallait que je vais là où je veux aller. En fait, j'ai eu cette chance-là où mes parents ont toujours inculqué que la culture était importante j'ai toujours voulu aller toujours plus loin et c'est une qualité, mais ça peut être un défaut aussi parce que des fois je me repose pas, j'écoute pas trop mon corps en fait et des fois je peux tomber malade et voilà, mais il faut savoir se poser aussi, mais comme tout le monde, hein.
Et donc, pour continuer avec la Corée, est-ce que tu prévois un autre voyage en Corée?
Alors, il y a un projet avec l'association qui s'appelle, c'est un petit projet, mais on l'a mis en stand-by pour l'instant, parce qu'avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué. Ça s'appelle OK Korea. Le groupe s'appelle OK Korea. On est 6 personnes atteintes d'une fibromyalgie. On a entre 36 et 75 ans. C'est des passionnés de Corée qui sont handicapés ou qui ont une maladie et qui veulent partir en Corée. Et nous, on veut organiser tout ce qui est côté matériel, organiser un voyage et nous faire des vlogs en Corée et montrer justement l'aspect philosophique du voyage quand on est une personne en situation de handicap, comment on peut voyager positivement, la frustration, tout ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant en fait. Et voilà, on a ce projet-là pour 2022, normalement. Si tout se passe bien. Parce que là...
Wow, ok. C'est un beau projet, hein, parce que vlog, donc, c'est-à-dire qu'il y aurait quelqu'un qui vous suivrait avec une caméra et qui documenterait votre
c'est
voyage.
C'est nous qui allons faire les vlogs. Voilà, c'est Elisa ou les bénévoles, parce qu'il y aura une équipe derrière d'accompagnants, voilà, de gens qui vont nous accompagner. Et on va montrer justement le quotidien d'une personne en situation de handicap, fauteuil ou pas, du lever. On ne va pas faire vie ma vie, hein, voilà, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières parce que ce n'est pas le but, mais on va montrer vraiment ce que ça représente au niveau des taxis, au niveau du budget aussi, parce que quand on est une personne en situation de handicap, ben, ça coûte cher, très cher, parce qu'il faut de l'équipement, il faut un certain confort, donc on ne peut pas aller dans les guest house parce qu'il y a des escaliers, parce qu'il y a ça, il faut tout réfléchir à l'avance. Et,
bien sûr, ouais.
Et, voilà, c'est une organisation, donc on va filmer tout ça et puis pour montrer. Justement, pour dédramatiser le handicap aussi. L'association, elle est là pour dédramatiser le handicap, qu'il ne faut pas avoir peur, en fait. On est des personnes comme tout le monde, en fait.
Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Le but de l'association, ça a l'air d'être vraiment de dédramatiser les personnes qui sont, enfin, la situation d'handicap de manière générale, de pas s'apitoyer sur son sort et de voir ça plutôt comme d'essayer de positiver, de bonifier tout ça au lieu du contraire, hein, et de se victimiser. Voilà,
ouais,
c'est ça le mot que je cherchais en fait.
En fait, souvent on me dit, oh, ma pauvre, t'as pas de chance.
C'est ça.
Excusez-moi, mais j'ai de la chance parce que j'ai un toit sur ma tête, j'ai un fauteuil pour me déplacer, je ne suis pas dans la rue, je ne meurs pas de faim, je ne meurs pas de froid, je suis bien, moi, ça va. Hein, on est, c'est bon, ce n'est pas la fin du monde non plus. Bon, moi, je ne marche pas, hein, c'est un peu chiant pour faire du sport, hein, certes, mais pour faire de la corde à sauter, c'est sûr que je ne pourrais pas faire de la corde à sauter. Mais ce n'est pas la fin du monde, je peux parler, je peux... Voilà.
Ouais, ouais. Ouais, non, la corde à sauter, c'est pas indispensable.
Non, c'est pas. Pourtant, j'ai essayé, hein, quand j'étais petite, mais j'ai laissé tomber, ça fait plusieurs chutes, c'est pas la peine.
Ouais.
Mais... voilà.
Et dans le cadre de ce voyage, alors, tu disais qu'il y avait pas que, il y aurait pas que des personnes en fauteuil, hein, qui feraient partie de ce voyage.
Okay. Non. Il y a des personnes aussi où le handicap ne se voit pas. Et ça, c'est une autre approche. Et... souvent, il y a des personnes qui ont un handicap et qui procurent une fatigabilité, qui marchent, mais ça ne se voit pas. Ils sont épileptiques, ils ont des traitements lourds, ils ont souvent ils sont diabétiques. Qu'est-ce que ça peut emmener? C'est des choses qu'on n'en parle pas, mais le handicap invisible aussi, c'est une autre chose et on n'en parle pas assez souvent, donc nous, on va mettre en lumière tout ça.
Oui, le handicap invisible.
Allô ?
J'ai regardé une vidéo que tu as faite sur YouTube avec un intervenant. Et donc, lui, il disait que ça représentait 80%. 80%, mais c'est 80%.
Oui.
D'accord, donc c'est beaucoup quand même. Hein.
Oui, c'est beaucoup, mais on n'en parle pas souvent. Parce que handicap, c'est un terme un peu péjoratif. Je ne sais pas si vous connaissez le mot handicap, d'où il venait. Il venait de la racine anglo-saxonne handicap. C'était pour les jockeys qui avaient un cheval boiteux. Voilà, oui. C'est un peu péjoratif et c'est vraiment le mot handicap, c'est long, c'est large. En fait, ça peut dire tout et rien dire.
J'avais vu sur une des vidéos, tu expliques que vous prêtez des fauteuils, notamment pour les voyages.
Ah, alors ça, c'est notre plus gros pôle qu'on va développer et qu'on essaye de développer tant bien que mal. C'est que pour ce qui m'est arrivé avec Turkish Airlines, en fait, nous, les personnes en situation de handicap qui veulent partir en voyage, eh ben nous, on va leur louer des fauteuils à moindre coût parce que voilà, ça coûte cher. Et on va leur prendre leur fauteuil du quotidien. Et s'il arrive un truc dans la soute, au moins, ce n'est pas leur fauteuil du quotidien en fait qui est cassé. Voilà, c'est pas. Et au moins, ils auront pas de problème. Parce que moi, il faut savoir qu'à l'époque, je travaillais et j'ai dû être en arrêt pendant une semaine parce que bah, mon fauteuil ne marchait plus. Donc, je n'ai pas pu aller au travail. Le fauteuil est très important, en fait, puisqu'on ne peut pas se déplacer sinon. Donc, voilà. Et on a un autre pôle, c'est le pôle réparation. C'est qu'il faut savoir que quand on est en panne un dimanche, eh ben, on n'a pas de manœuvre pour le réparer et on n'a pas de réparateur. Et nous, on veut faire du dépannage 24 heures sur 24.
Par curiosité, comment vous vous procurez les fauteuils que vous allez prêter? Parce que ça coûte
Eh
extrêmement cher.
ben, justement, là, on est en train de faire des dossiers de subvention pour demander de l'argent, pour en acheter, pour avoir un petit parc de fauteuils pour pouvoir les louer. Et j'ai une certaine connaissance de certaines pathologies à force de côtoyer des gens en situation de handicap de tout horizon, ben, de toute pathologie. Je commence à avoir un certain œil avisé. Donc, moi, je rentre vite dans le vif du sujet quand je rencontre des gens. Je leur pose plein de questions sur ce que vous faites avec moi là en ce moment, sur comment ils sont arrivés là, voilà, et pour récolter des informations. Parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ne sont pas aussi ouvertes que moi dû à leur parcours. Par exemple, vous m'interviewez sur mon handicap, et ben, il y a des personnes qui n'accepteraient pas parce que c'est trop récent, c'est trop, mais si c'est une personne en situation de handicap, elles acceptent plus. On n'a pas tous la même façon de réagir, parce qu'on est tous des êtres humains, en fait.
Bien sûr, ouais. Non, je trouve que c'est bien ce pôle-là de réparation. Moi, ça me plaît, c'est une bonne idée. J'aime bien l'idée d'avoir un réparateur qui vient chez toi, vient sur place, hein, le mécano spécialiste du fauteuil qui vient réparer tout ça. C'est vraiment bien et c'est surtout utile, quoi. Parce que, mais justement, sur la location de fauteuil ou ce pôle réparation, en France, est-ce qu'il y a d'autres organismes, d'autres associations qui proposent ce type de service ou des choses similaires?
En fait, on est novateur là-dedans. On est, ça coûte très cher en fait. Il y en a, mais ça coûte très très cher. Et nous, en fait, c'est pas l'argent qu'on recherche. C'est vraiment le bien-être de la personne. Donc nous, on va essayer de se mettre au minima, mais d'aider vraiment la personne et voilà, et de trouver des subventions justement et
D'accord. Et dans le cadre du voyage, est-ce qu'il y a d'autres associations qui proposent aussi, qui font la promotion du voyage pour les personnes en situation de handicap?
Il y a Yola, il y a APF Évasion, mais je veux pas leur faire de la mauvaise pub hein, parce que j'ai déjà été en contact avec eux, mais j'ai déjà été avec eux en séjour quand j'étais plus petite avec APF Évasion. Et moi, vraiment, je trouve que c'est très cher. Pour vous donner une idée, pour partir 15 jours en Grèce, j'ai une amie, elle a payé 4 000 euros, je crois. 4 000 euros. Et nous, en fait, on veut vraiment aider les personnes au niveau financier. C'est que on veut apprendre aux personnes que partir en voyage quand on est en situation de handicap, ça se prépare. Moi, je suis partie sur en 3 semaines, voilà. C'était sur un coup de tête, mais je ne conseille pas aux personnes de faire ça. Ça se prépare sur 2 ans, voire 3 ans, et vraiment préparer de A à Z et faire un circuit et travailler avec des partenaires. Voilà, ça se prépare.
Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a une préparation logistique qui est importante, hein, organisationnelle également. Et il y a aussi une préparation psychologique
C'est ça.
pour la préparation au voyage, surtout sur des longs courriers comme ça, hein, sur une
C'est
destination lointaine. Bon, la Grèce encore, ça va, hein, c'est pas trop loin, mais quand tu pars à 10, 12 heures de vol, ça change la donne.
épuisant, c'est fatigant, c'est épuisant. Et
Oui.
puis, il faut savoir que il y a des choses que les valides ne pensent pas, mais c'est des petites choses. Par exemple, quand je suis partie en Corée, pendant 15 heures, j'ai pas pu aller aux toilettes.
C'est ce que j'étais en train de réfléchir. Je me dis, mais du coup, dans l'avion, comment ça se
J'ai
passe?
pas pu aller aux toilettes. Il y a toute cette préparation-là aussi qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'il faut savoir que les hôtesses de l'air, les stewards, ils n'ont pas le droit de nous porter. Parce que, bah, voilà, c'est pas leur job. Et il y a tout ce rester assise pendant 15 heures, ne pas pouvoir bouger. Il y a une fatigabilité en plus, psychologique mais aussi physique, qu'il faut appréhender et on s'en rend pas compte en fait avant.
Bah déjà, pour une personne valide, c'est éprouvant, hein, tu sais, le voyage. Nous, on a l'habitude
Oui.
d'accueillir des voyageurs. Et après un vol aussi long, bah, c'est fatigant. Tu as le décalage horaire dans les dents. Tu as le vol qui est éprouvant. Enfin, voilà, c'est pas une partie de plaisir. Hein, surtout si les personnes n'aiment pas trop l'avion, comme moi. Enfin, bref. Donc, il y a tout ça. Et donc, ouais, tu disais qu'il y avait d'autres organismes, hein, d'autres associations qui faisaient la promotion du voyage pour les personnes en situation de handicap. Mais tu voudrais peut-être donner, toi, apporter une touche un peu différente, hein, avec une accessibilité au niveau financier également, hein, pour que ça
Oui,
ne coûte pas 5 000 euros ou 4 000 euros de
c'est ça.
partir.
Et en fait, c'est souvent des personnes valides avec toute leur bienveillance qui sont à l'origine de ça. Et ils sont bienveillants, hein, il n'y a pas de souci, ils ont l'envie. Mais je pense que la personne qui le vit pourrait apporter un plus. Et voilà, moi, c'est. Je suis un peu. Il y a des gens, par exemple, qui viennent nous voir, qui me disent, par exemple, je veux partir à Venise. T'es en fauteuil. Bon, ok, je veux partir à Venise. On va reprendre depuis le début. Bon, le fauteuil dans l'eau, c'est pas trop. Mais
Ouais.
voilà, on essaie de. Ce qui est réalisable aussi, c'est. Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont une courte vie et qui veulent partir très loin. Donc, il y a ça aussi, le côté rêve qui est la réalité, en fait. On essaye de ramener à la réalité aussi.
Avec ton association, est-ce que vous avez déjà organisé des voyages en
Non.
Europe? Non?
Non. Pas pour l'instant, parce que là, on est vraiment sur le côté financier et sur le côté de nous faire connaître aussi. Et on est un peu. C'est un peu compliqué avec la crise sanitaire, puisque. Le
Ouais.
voyage actuellement, c'est pour voilà les subventions, voilà. Et puis on est jeune, et puis ben, c'est un petit peu compliqué là en ce moment, mais on s'accroche.
Quel message, toi, tu aimerais passer au. Bon, on en a déjà parlé, hein, aux valides pour que le regard et les opinions sur les personnes en situation de handicap évoluent, changent. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, aux personnes valides? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire?
Ben, on est des personnes comme tout le monde et n'hésitez pas à venir parler et vous verrez, on est semblables en fait. Il faut dire qu'on a tous une chose semblable, c'est un cœur. Donc, qu'on soit bleu, jaune, maghrébin, je sais pas quoi,
Vert ou rouge, ouais.
qu'on est tous pareils en fait, vraiment. Et qu'on a tous le même cœur qui bat et que ça a même. Pas de sens de dire l'autre il est différent de moi, alors je parle pas, dénigrer l'autre, ça sert à rien. Faut apprendre à connaître avant de se faire une opinion et voilà.
Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Désolé, hein, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est vrai que tu parlais des autres associations et qui le fait aussi, toi, d'être la présidente de ton association et d'être toi-même en situation de handicap, ça te permet d'avoir une meilleure expertise entre guillemets, sur ce que tu vas proposer, les services, sur faire que les gens soient plus réceptifs à ce que tu dis, les personnes avec qui tu travailles. Est-ce que c'est important pour toi? Tu dis que les autres associations, elles font peut-être du bon travail, mais il n'y a pas ce côté-là où toi, t'es vraiment, tu peux vraiment te mettre dans la peau des personnes qui vont partir en voyage avec toi, par exemple.
Oui, je trouve que c'est important. Après, j'ai un regard, mais je travaille sur un projet, on travaille tous ensemble c'est le parcours de vie aussi qui est important. Mes bénévoles, ils ont tous un parcours un peu atypique et des fois, il y a des handicaps qui ne se voient pas et ils ont leur histoire et l'être humain a une histoire et on apporte chacun la pierre à l'édifice en fait. On construit tous ensemble. Et sur le côté de l'handicap, moi, sur le côté pratique, j'ai un œil plus avisé sur le quotidien, sur la fatigabilité, sur, par exemple, visiter pendant 5 heures dans un pays. Il faut peut-être ralentir et faire des pauses. Il y a tout ça, en fait. C'est vraiment le côté pratique.
Moi, j'ai une question un peu personnelle. C'est, je voudrais savoir à quoi ressemble le quotidien de Mina. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta journée? Quelle est ta journée type? Qu'est-ce que tu fais le matin? Est-ce que tu as des petits rituels? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Comment est-ce que tu pourrais décrire ta journée type?
Ma journée type, je vais prendre aujourd'hui, je me suis levée à 7h30. Je prends ma douche. J'écoute la musique pour me mettre dans une bonne vibe. J'écoute la musique.
Pas de la K-pop.
Non,
j'allais dire.
J'aime bien écouter, ça dépend, les chansons, la pop, ça dépend des fois du Mozart, ça dépend. Je discute avec mon ox, je bois mon petit cappuccino, je regarde le planning que j'ai à faire. Souvent, Elisa, après, elle arrive, on regarde ce qu'on a à faire. Je suis formatrice d'auxiliaire de vie l'après-midi, c'est-à-dire que je forme des auxiliaires de vie et je leur apprends à porter les gens, je fais le cobaye. Donc, généralement, je finis à 18h, après, je rentre. Je regarde un film, Netflix, je sais pas. Je regarde mon ordi si j'ai pas des mails. J'anticipe ma journée du lendemain. Souvent je vois mes copines. Voilà, en ce moment pas trop, mais bon, je suis pas. Voilà. Et j'ai un rituel très particulier, c'est que je suis très un peu, j'aime bien mes tenues, donc je suis très sur l'apparence, parce qu'en situation de handicap, déjà, on est un peu en mode quasimodo des fois, donc moi, l'apparence, c'est important. je prends le temps aussi de me pouponner, de me maquiller, en temps normal, quand il n'y a pas le Covid, j'aime bien faire du shopping, aller voir des cafés avec mes copines. On a un bureau, normalement, là, je suis en télétravail, mais on a un bureau. Après, j'ai des réunions. Après, on fait des repas entre bénévoles, comme tout le monde. Souvent, ma journée, elle finit à... Parce que j'aime bien regarder les trucs dans mon lit pour l'asso. Elle finit à 23h.
Ok, écoute, t'as pas le temps de t'ennuyer, alors, hein?
Non, je m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais. Je suis toujours en activité. D'ailleurs, j'ai mes copines valides ou des gens valides qui me disent « t'en fais plus que nous ». Je suis un peu une hyperactive.
Et pour conclure, est-ce que tu aurais un petit message à adresser aux personnes qui sont en situation de handicap, qui rêveraient de voyager ?
J'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas se cantonner à ce qu'on entend des valides, même si c'est bienveillant. Mais il faut réfléchir à la réalité. C'est-à-dire que si tu veux partir en Corée ou ailleurs, hein, pas qu'en Corée, hein, mais faut réfléchir, faut bien préparer les choses, faut bien prendre en compte ta pathologie, mais ne pas lâcher l'affaire. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Certes, il faut patienter 5 ans, mais il faut mieux tout préparer plutôt que de partir à l'arrache et que tu sois vraiment en difficulté et te faire rapatrier et que ce soit une mauvaise expérience.
Ok, magnifique. Bon, ben, on te laisse le mot de la fin.
Hein. Déjà, merci à vous de nous avoir permis... De m'avoir permis de parler de l'association,
avec plaisir.
De m'avoir interviewé, c'est cool. Et aussi, je sais pas, faut profiter de la vie. Même dans ces moments de pandémie, il faut pas oublier que on va en ressortir plus fort et on sera tous contents de revoir nos proches, de pouvoir revoyager, on espère. Et voilà, il faut toujours rester positif, quoi qu'il arrive. I feel good!
Ok. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Hein, ça nous a fait très très plaisir. C'est cool que tu aies répondu à toutes nos questions hein, sans tabou. C'est aussi le but de notre émission.
Ça faisait pas être trop bavarde.
Non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis, tu vois, on aime bien nous l'honnêteté, la franchise. Et puis, voilà, que tu puisses t'exprimer sur tous les sujets, c'est important aussi de pouvoir avoir cette liberté d'expression. Mais en tout cas, merci. Hein, merci. On apprécie vraiment ton temps et puis voilà, ta disponibilité et puis ta spontanéité, ton attitude positive surtout. Hein, ça, c'est bien. On en a tous besoin, surtout en ce moment. Hein.
Ah oui, et n'oubliez pas, si vous voulez aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, sur... Notre Tipeee, on a besoin de dons parce que c'est compliqué en ce moment et même si on a les subventions, on a besoin d'aide. Donc, si vous voulez aller faire un tour sur notre Tipeee parce qu'on va lancer un projet, c'est le petit salon de Mina et nous aussi, on va vous interviewer. Alors, si vous avez un parcours atypique et que vous voulez raconter votre histoire, il n'y a pas de souci, je serai là pour vous interviewer avec notre équipe et suivre votre quotidien. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas Vie ma vie ou Téléthon, hein, mais, mais pour montrer les choses positives de la vie, parce qu'on en a besoin. Et...
Ah, ben c'est gentil. Jeanne et Julien, ils ont un parcours atypique. Hein. Ils seront ravis d'être interviewés par toi, Mina. Ils m'ont dit.
Voilà.
Oui. Et puis, tu peux nous donner l'adresse du site vite fait. Je la mettrai dans le lien, hein, dans la description, ouais, tout ça. Je mettrai tous les liens nécessaires. Mais de la chaîne YouTube et de la page Tipeee.
Et du Tipeee surtout.
Ouais, je vous envoie ça par Instagram.
Ok, Instagram, c'est là. Tout se passe sur Instagram. Hein. C'est ça.
On est ouais, jamais autant utilisé Instagram de ma vie.
Non, moi, c'est pareil. Hein. Et Jeanne, Julien, dernier mot pour Mina.
En tout cas, pour le Facebook et Instagram, donc voyageons avec Mina, tout simplement.
Hein. C'est ça.
Ok, donc tout le monde, allez chercher vite voyageons avec Mina sur Facebook et Insta.
Tout à fait. À vos téléphones, comme on dit.
À vos téléphones, ouais, suivez-la, hein. Suivez Mina, suivez son association pour en savoir plus. Voilà, on essaie de soutenir la cause.
Ok. Voilà.
Merci Mina, bon début de semaine. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Elisa, au revoir.
Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, quel moment de pur bonheur et que de belles leçons à retenir. On vous remet donc tous les liens dans la description. Suivez Voyageons avec Mina et gardez à l'œil le nouveau projet de l'association intitulé Le Petit Salon de Mina. Pour décrire ce projet, je reprends les mots de Mina. C'est et ça sera une plateforme vidéo sur la chaîne YouTube de l'association Voyageons avec Mina.
Cette plateforme a pour objectif de dénicher les personnes, les associations, les entreprises, bref, toutes sortes de structures individuelles ou collectives avec une particularité. Elles ont toutes un parcours, un projet positif qui donne le sourire. Cela se fera sous la forme d'interviews afin de capturer les belles énergies des intervenants et de les partager. Pour l'instant, le petit salon de Mina est en voie de création et cherche les premières voix à mettre en avant sur la chaîne. Voilà, le message est passé et avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà voyager avec Corée Voyage depuis chez vous grâce au tour virtuel que nous proposons. On vous met toutes les infos également dans la description. Sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de semaine et comme on dit en coréen, bon courage, restons motivés. Fighting!